Avec ce soir Lucie Casté. Bonsoir Madame Casté.
Bonsoir.
Je rappelle qu'après les élections législatives, le nouveau Front Populaire vous avez désigné comme potentielle candidate à l'hôtel de Matignon. À ce titre, vous êtes avec nous ce soir avec Alain Duhamel. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Aller à l'Assemblée nationale retrouver Edgar Becquet en direct pour BFM TV. Edgar, pour reparler de cette séance de questions au gouvernement qui a été plutôt houleuse, agitée au lendemain de la condamnation de Marine Le Pen.
Oui Alain, les députés avec qui j'ai parlé ce midi me l'avaient promis. Ils m'avaient promis une séance de questions au gouvernement agitée. Eh bien, ils ne se sont pas trompés. Cette séance de questions au gouvernement a été extrêmement houleuse dans un climat très, très tendu. François Bayrou a pris la parole. Le Premier ministre a dit s'interroger sur cette condamnation à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Et à la fin de sa prise de parole, à la fin de sa réponse, personne, je dis bien personne, ne l'a applaudi. Aucun député, pas même les députés du bloc central, des députés du bloc central qui se sont dit déçus, décontenancés. Sa réponse n'a pas plu dans le groupe. Il louvoie, on n'en pense pas du bien. Voilà ce que me disent en off deux députés du bloc central. Écoutez justement l'intervention de François Bayrou tout à l'heure dans l'hémicycle.
Il est vrai qu'il y a des interrogations. Et j'ai moi-même souvent exprimé des interrogations sur le seul sujet qui me paraît devoir être dans cette affaire sous notre observation. En principe de droit, toute décision lourde et grave en matière pénale doit être susceptible d'appel.
Voilà donc la condamnation de Marine Le Pen qui est le sujet numéro un de discussion ici à l'Assemblée nationale au détriment des autres sujets comme la loi narcotrafic qui a d'ailleurs été votée, adoptée tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
Edgar Becquet donc au Palais Bourbon pour BFM TV. On a entendu Alain Duhamel, François Bayrou aujourd'hui. Hier, il s'était dit troublé. Aujourd'hui, il a reconnu qu'il y avait des interrogations sur cette exécution provisoire. Est-ce qu'un Premier ministre devrait dire ça publiquement ?
Non. Je pense qu'il a le droit de le penser, comme personne qui, en plus, est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce genre de sujet et qui, par ailleurs, a eu une expérience personnelle qui lui a fait... s'intéresser de très près à ce qu'on pouvait faire ou pas faire, mais un Premier ministre ne doit pas s'exprimer, même de façon elliptique, même de façon indirecte. Il y a la séparation des pouvoirs, qui est un impératif absolu. Le Premier ministre incarne l'exécutif. Ses réflexions personnelles, il a le droit de les poursuivre dans son cabinet ou il a le droit de les poursuivre quand il est à Pau. Il ne doit pas y faire allusion et il ne doit pas souhaiter qu'on y fasse allusion, je trouve. En réalité, ce qui est mis en cause, c'est l'application d'une loi qui a été votée par le Parlement. Les juges appliquent la loi. Les juges, ils n'inventent pas la loi. Ils l'appliquent. Et qui a voté la loi ? Ce sont les politiques. Et ce que les élus ont fait, seuls les élus peuvent le défaire. On vote une loi, on a parfaitement, d'ailleurs ça s'est produit des milliers de fois, la possibilité ensuite de la modifier, voire dans certains cas, quand la majorité est différente, de la renverser. On peut répondre de cette façon. Mais je pense qu'on n'exprime pas ces états d'âme sur un sujet, même un sujet sérieux, puisqu'il s'agit quand même des droits individuels, et en plus à une occasion importante. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre les rôles. La personne privée, François Bayrou, a parfaitement le droit de réfléchir à ça. La personne publique, François Bayrou, Premier ministre, a tort d'en parler en public ou de le faire comprendre.
J'irais même plus loin. Enfin, je suis bien sûr d'accord avec ce que vient de dire Alain Duhamel. Moi, j'irais plus loin. Je pense qu'il n'est pas possible, quand on est Premier ministre, de s'exprimer en tant que citoyen. Et a fortiori, c'est important de noter que le Premier ministre, qui parle avec toute la valeur, tout le poids que sa parole revêt en tant que Premier ministre, choisit avant toute chose à l'énoncé de cette décision, d'énoncer son trouble, puis son interrogation avant même de soutenir la magistrate qui est personnellement menacée physiquement, avant même de soutenir l'indépendance de la justice, avant même de soutenir l'état de droit dans un contexte particulièrement préoccupant à cet égard, choisit d'énoncer son trouble. Oui, mais sa parole a une grande valeur puisqu'il est Premier ministre, donc il a aussi une grande responsabilité. Moi, je suis très préoccupée, je trouve que dire...
Il dit qu'il parlait en tant que citoyen.
Mais on ne peut pas parler en tant que citoyen quand on est Premier ministre. Ça n'existe pas. Même si on le dit, ça n'est pas vrai. On parle aussi en tant que Premier ministre.
Surtout qu'il était interpellé en tant que Premier ministre, pas en tant que citoyen.
Oui, on a le droit de s'interroger, de se poser des questions.
Ah non, mais bien sûr.
Parce
bien
que
sûr.
Ce jugement...
Ouais, ça peut se changer.
Mais
c'est un véritable séisme.
La seule bonne solution, quand une loi est mauvaise, alors on peut discuter sur le point de savoir si en l'occurrence elle est bonne ou mauvaise, mais c'est de voter une autre loi qui la modifie.
Elle est bonne ou elle est mauvaise, cette loi, alors?
Elle est globalement bonne, puisque cette loi, comme beaucoup d'autres qui les ont précédées, parce que moi j'en ai vu quand même, je pense, une vingtaine de lois successives qui étaient toutes faites pour être de plus en plus strictes sur le contrôle du financement de la vie politique. Alors, je peux dire que je suis vraiment pour, puisque j'ai écrit un des premiers articles chronologiquement sur le sujet quand j'avais 25 ans. Et j'étais obsédé par cette question d'établir un contrôle du financement politique, ce qui, en 1965, n'était pas exactement le cas. Bon, il y a eu plein de lois qui ont beaucoup amélioré les choses. Et dans une loi, il y a des dispositions qui sont très bonnes, et puis il arrive qu'il y ait des dispositions qui sont moins bonnes ou qui sont insuffisantes,
en tout cas,
voire qui sont des erreurs.
Là, il a
et
ouvert
dans ce cas-là, la bonne solution, qui est lente, je le reconnais, et qui intervient en l'occurrence sur un moment très important politiquement, mais la bonne solution, c'est de modifier une loi si elle n'est pas adaptée.
Bah, il a ouvert un peu la porte à cette réflexion pour faire évoluer la loi.
Sur ce sujet, deux points. Moi, je pense, comme Alain Duhamel, que le sens de l'histoire, c'est plutôt de renforcer les dispositifs législatifs pour améliorer la lutte contre les atteintes à la probité. C'était le sens de la loi Sapin 2 de 2016, puis la loi sur la confiance dans la vie politique en 2017. Moi, je pense que ce sont des lois dont il faut encourager l'esprit. Et donc, c'est dans ce sens-là, par exemple, que l'inéligibilité a été rendue automatique ou quasi-automatique. Et ensuite, là, on parle de la question... de l'exécution provisoire, qui porte en fait assez mal son nom, puisque c'est plutôt de l'exécution immédiate. Moi, je m'interroge personnellement...
Voire quasi définitive.
Je m'interroge personnellement sur le trouble à géométrie variable que suscite cette exécution provisoire. Parce qu'en réalité...
Jean-Luc Mélenchon la remet en cause,
En réalité, cette exécution provisoire, elle existe dans de très nombreux cas. Par exemple, pour les personnes qui sont condamnées à de la prison ferme, il y en a presque 60% qui, en première instance, vont en prison directement. Ça ne semble troubler personne. Je n'entends personne qui dit que c'est un problème, que c'est une atteinte au droit à l'appel, puisque le droit à l'appel n'est pas du tout remis en cause par la décision de justice qui vient d'être donnée.
Oui, mais ça va plus loin, mais Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour qu'on ne peut pas soupçonner d'être un proche de Marine Le Pen, il est contre cette exécution provisoire. Il dit que c'est au peuple souverain de décider qui peut être ou non candidat.
Mais il y a deux choses différentes. C'est au peuple souverain de désigner des députés et des sénateurs pour, au Parlement, rédiger les lois. Et donc, les lois sont l'émanation du peuple souverain. Les juges les appliquent. C'est ce qu'ils ont fait. Ce qui aurait
ils n'étaient pas obligés de mettre l'exécution provisoire.
Oui, mais précisément...
Ils l'ont d'ailleurs argumenté.
Le recours à l'exécution provisoire n'a, dans le cas, donné rien d'exceptionnel. Et ce qui aurait été exceptionnel et ce qui aurait été politique, c'était de renoncer au texte, précisément de renoncer à la loi et de renoncer aux sanctions qui sont les plus efficaces. Là, on a 152 pages de jugement qui expliquent notamment, entre autres, pourquoi cette exécution provisoire a été retenue. Oui. Ça a été retenu notamment parce que...
Un risque
de récidive qui est lié notamment au fait que le Rassemblement National et Marine Le Pen, en premier lieu, n'ont en aucun cas reconnu qu'ils étaient en tort, qu'ils avaient mal agi. Et le deuxième point, c'est quand même que qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas eu cette exécution provisoire? On a Gérald Darmanin qui dit que l'appel doit être adopté très vite. Eh bien, ça se trouve, on aurait eu un appel quelques mois avant l'élection présidentielle. Et là, on aurait été dans une situation où, imaginons que cela confirme l'inéligibilité de Mme Le Pen, on aurait eu une situation où on aurait crié au vol de l'élection.
Si Olivier veut bien, ce qui est assez rare, mais ça m'amène à vous répondre que dans cette affaire, il y a une dimension qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération et qui est qu'on touche à un moment essentiel de la démocratie, qui est la désignation des candidats pour l'élection présidentielle. Et en l'occurrence, il se trouve que la candidate en question, qui est Marine Le Pen, était dans une situation a priori particulièrement favorable. Ça ne veut pas dire qu'il faille du tout inverser une décision de justice. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je pense que, d'ailleurs, je pense, je l'ai dit tout de suite, que la décision de justice était équitable. Donc, je ne discute pas la décision de justice, mais je pense que quand il s'agit de quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle déclaré, et qui en plus se trouve être, alors je reconnais que c'est un argument qui n'est pas automatique, mais enfin se trouve être en bonne position, disons que plus on peut être content des circonstances dans lesquelles le débat a lieu, plus on peut penser que ça va être une élection totalement loyale dans son déroulement, et évidemment mieux c'est. Et là le problème, c'est que ça a été ma thèse, même Olivier le reconnaît, ça a été ma thèse dès le départ, c'est que c'était une décision de justice équitable, mais avec des conséquences politiques redoutables. Et ces conséquences politiques, ça c'est ce que j'ai dit dès hier, hein, mais elles ont lieu dès aujourd'hui.
Oui, mais ces conséquences...
C'est ce qui était visible.
Ces conséquences politiques, elles sont imputables intégralement au comportement du Rassemblement national et de ses cadres qui ont choisi d'ignorer les textes, qui ont choisi de détourner 4,1 millions d'euros. Ça paraît être une lapalissade, mais je pense que c'est quand même très important de le dire.
Bien sûr,
le fond, c'est une infraction au droit.
Mais Marine Le Pen, pour l'instant, est innocente puisqu'elle fait appel.
Elle bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence. On a quand même 152 pages de jugement qui montrent qu'elle avait tous les moyens de savoir ce qui se passait dans son parti en lien avec ses assistants parlementaires qui étaient recrutés à des fins différentes.
Est-ce que ça sera un problème démocratique si Marine Le Pen ne peut pas se présenter en 2027?
Ça sera un problème dans la démocratie, c'est absolument évident. Et d'ailleurs, ce qui se produit aujourd'hui déjà, une forte majorité de Français trouvent que c'est un jugement équilibré. Que c'est le jugement est normal. Donc il faut avoir...
Y compris la partie exécution immédiate.
Oui, mais je ne discute pas ça. Oui, les Français trouvent
dans
que...
Dans un premier sondage.
Que ça se passe normalement. Bon, bah, très bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément raison, d'ailleurs. Mais enfin, c'est en tout cas ce qu'ils pensent. Et c'est un argument. Mais derrière ça, la conséquence politique immédiate... C'est qu'on a vu que dès aujourd'hui dans le débat, et en particulier cet après-midi à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national qui est essayé avec un certain succès depuis des années et des années, et en particulier depuis, je dirais, une petite dizaine d'années, de se respectabiliser, de se normaliser, et retomber immédiatement, instantanément, dans ses habits de parti protestataire, populiste, anti-système. Et justement, vous avez raison d'employer le mot système. Mmh. Il avait disparu dans le vocabulaire du Rassemblement national. Il est ressurgi cet après-midi. C'est-à-dire que l'opposition entre le Rassemblement national et ses adversaires, opposition qui est légitime évidemment, l'opposition reprend un ton qui est un ton dangereux, qui n'est pas le ton d'un débat démocratique.
Oui, est-ce que si Marine Le Pen n'est pas candidate en 2027, je repose la question que je posais à Alain, est-ce que c'est un problème démocratique?
Mais ce qui aurait été un problème démocratique, c'est d'avoir une candidate sur la ligne de départ qui a été condamnée en première instance pour détournement de fonds publics et déclarée inéligible. C'est quand même troublant de considérer que le problème, c'est
qu'on ne va pas jusqu'au bout d'une procédure judiciaire.
Et puis, une fois, on a dit que l'exécution provisoire, on le constate, c'est une procédure très commune dans la justice française.
C'est la première fois que la chef de l'opposition, à 2 ans d'une présidentielle, est empêchée de concourir dans l'histoire de la
cinquième République.
Oui,
mais vous savez que toutes les circonstances de cette situation ont été produites aussi par le fait que le Rassemblement national...
Donc, ce n'est pas un problème pour vous.
Et c'est tout à fait son droit à utiliser toutes les voies de recours au fur et à mesure pour que cette procédure dure 11 ans.
Donc, si elle est éliminée de la course à présidentielle, ce n'est pas un problème.
Non, ça n'est pas... C'est justifié qu'elle le soit.
D'accord. Alors pour moi, ça n'est pas un problème juridique, puisque je considère que les décisions du tribunal sont proportionnées aux responsabilités non seulement qu'elle a incarnées, mais qu'elle a contribué à inventer et qu'elle a elle-même dont elle-même a contrôlé la mise en place. Donc je trouve que sur le plan juridique, je pense que la décision du tribunal est ce qu'elle doit être. Sur le plan politique, donc dans l'idée qu'on se fait des choses, ça n'est pas... on est parti pour qu'elle soit remplacée par Jordan Bardella. Bon, d'être remplacée par Jordan Bardella, après tout, c'est le président de son parti, donc on ne peut pas dire que ça serait anormal. Mais ça serait, en tout cas, on ne peut pas dire que ça ne serait pas complètement différent de ce à quoi on assiste depuis 10 ans, et que aussi près d'une élection, c'est quand même un problème.
Mais ça ne veut pas dire par ailleurs que ça ne crée pas un problème politique. Je pense que ça va poser des questions dans le débat public, on le voit déjà là, sur la question de l'indépendance de la justice, sur la question des décisions, du caractère politique ou non des décisions. Et là, maintenant, il y a un débat sur le plan, il y a un combat sur le plan des idées politiques qu'il faut mener. Et à cet égard, l'attitude de François Bayrou, moi, me semble très problématique. Il ne faut surtout pas lâcher sur ce qui fait les piliers de l'État de droit aujourd'hui.
Merci Lucie Castet, merci Alain Duhamel.